Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 et bienvenue à Grimage, votre préférée, parce que la seule, émission sur la culture orale. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, je vais avoir le plaisir de commencer par une introduction sur un type de conte que j'affectionne particulièrement, les facéties. Ah, qu'est-ce qu'une facétie ? Eh bien, une facétie, comme son nom l'indique, c'est une farce, une blague, mais mise sous forme de conte, bien sûr, puisque c'est quand même le thème de l'émission. C'est un conte, très souvent à but humoristique, qui fait généralement appel à la ruse et à l'astuce d'un personnage principal. On y retrouve souvent des ressorts classiques, comme l'humour absurde et le ridicule, ainsi que le comique de répétition. Précisons tout de suite qu'à ma connaissance, je suis le seul à utiliser le terme « facétie » pour désigner ces genres de contes. C'est un terme que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il convient, et de la même manière, j'appelle souvent « facétieux » le personnage principal de ce conte. Le facétieux, justement, est souvent récurrent. C'est le héros de plusieurs facéties à la suite qui maintiennent une certaine cohérence dans sa caractérisation. C'est souvent le malin, moqueur, sage et rigolard. Des exemples incluent Nasreddin Hoxha dans la culture musulmane, Tchanches en Belgique, qui n'est pas très éloigné du guignol de Lyon, et le curé de la Fare en Ardèche, mais aussi Merlin, le petit tailleur des contes de Grimm, et Renard du roman de Renard. Ah justement, le roman de Renard, c'est une référence historique parfaite dans le genre, au même titre, dans un autre style, que les comédies de Molière. Les aventures de Renard, et les différents tours qu'il joue au Louis Zangrin, sont autant d'excellents exemples de facéties, ainsi qu'une très bonne représentation du facétieux le plus courant de France, le renard, ou Goupil, qu'on retrouve dans le même rôle un peu partout, des fables de La Fontaine à Pinocchio, en passant par Le Petit Prince et le génial, fantastique Maître Renard de Roald Dahl. Je me permets au passage de vous conseiller chacun de ces ouvrages, puisque tous valent le détour. À cet animal pourtant peu apprécié des éleveurs, rappelez-vous, je parle toujours du renard, et considéré par beaucoup comme nuisible, la culture française a tendance à associer un rôle de blagueur, rusé et astucieux, mais aussi moqueur, parfois dur et égoïste. Et de fait, dans nombre de facéties, même celles qui ne concernent pas les renards, le personnage principal cherche avant tout son propre intérêt, que ce soit sous la forme de son rire ou de son estomac. Ce rôle n'est bien sûr pas universel, puisque dans d'autres cultures, il est plus volontiers attribué au singe, à l'araignée, au coyote et parfois même au corbeau. Le personnage de facétie, lorsqu'il n'est pas un animal, véhicule presque invariablement une identité culturelle, devenant de fait un héros malin et admiré par la culture. Ce qui s'explique par le fait que le facétieux est souvent bien plus réaliste dans son comportement et dans ses idées que le personnage de conte ordinaire, là où les princes, les chevaliers et les magiciens des contes cherchent à faire le bien via leur force, leur gentillesse ou leur magie, le facétieux, lui, doit se débrouiller pour arriver à ses fins, quelles qu'elles soient, à coups d'astuces, de débrouillardises et même de baratins. Il est humain, tout simplement, et il permet à tout à chacun de s'identifier à ce personnage certes débrouillard, mais bardé d'autant de défauts que n'importe quel autre humain. Gardez d'ailleurs à l'esprit le fait que si le facétieux est souvent vainqueur, il n'est pas lui-même à l'abri de la farce, et plus souvent qu'il n'aimerait l'admettre, victime de celle-ci. Le conte qui va suivre est assez ancien, son origine est disputée. La Turquie revendique sa création culturellement, mais la culture hébraïque attribue la parabole au rabbi Nahman, désolé pour la prononciation, alors que la culture musulmane, elle, soutient qu'il s'agit d'un des enseignements de Nasreddin Hoxha lui-même. Et d'ailleurs, qui est ce Nasreddin Hoxha, que j'ai déjà évoqué deux fois, simplement dans cette émission ? Eh bien, il s'agit d'un personnage mythique, célèbre des Balkans à la Mongolie en passant par l'Asie centrale et le Maghreb, bien qu'il soit connu dans tous ces endroits sous différents noms. Nasreddin, c'est l'archétype même du fou sage, le philosophe errant qui va de ville en ville, en apportant la bonne parole et la sagesse par l'humour, ou parfois en contentant simplement son estomac qu'on dit être sans fond. Si le personnage réel aurait vécu en Irak au 8e siècle, les aventures de Nasreddin ne connaissent pas de frontières. Partout où on trouve des fous, des idiots et des ignorants à corriger par l'humour, on trouve aussi Nasreddin, monté sur son éternel âne, le sourire aux lèvres. Vous l'aurez compris, Nasreddin est sans doute l'un des plus grands personnages de conte qui soit, et l'un des plus connus. On le situe généralement en Turquie, et c'est effectivement non loin de la Turquie que notre histoire commence. Il était une fois, dans une petite vallée montagneuse non loin de la Turquie, un tout petit pays que l'histoire a depuis longtemps oublié. Ce tout petit pays avait une chance. Il disposait d'un roi bon, juste et gentil, un roi qui régnait par la gentillesse. Aussi le peuple de ce petit royaume était-il extrêmement heureux. Mais pas le roi. Non, le roi depuis plusieurs années déjà, perdait le sommeil, car une idée fixe ne voulait pas sortir de sa tête, sa succession. En effet, le roi n'avait qu'un seul fils, le prince donc. Et le prince était, pour des raisons un peu particulières, la personne la moins indiquée pour remplir le rôle de roi à la mort de son père. Comment le dire délicatement ? Le prince se prenait pour un poulet. Voilà, un poulet. Il était tout nu, accroupi, sous une table dans une salle qui lui était réservée, et picorait le grain posé par terre pour lui. Vous comprenez que le roi n'envisage même pas de donner un jour le trône à ce fils fou. Et puis voilà qu'un matin, en se levant, le roi eut une idée. Il fit placarder partout dans son royaume, et même en dehors des frontières de son royaume, des affiches indiquant qu'il récompenserait de 2 bourses de pièces d'or quiconque arriverait à soigner son fils. Oh, vous pensez, 2 bourses de pièces d'or? Tous les charlatans des royaumes alentours se sont ramenés en vitesse pour essayer de récupérer l'argent. On a eu des derviches tourneurs, des prêtres, des moines, des imams. Il y a eu quelques magiciens perses, quelques prêtres de religion oubliés, et même un unique moine tibétain arrivé là par on ne sait quel miracle. Tous passèrent et tous firent assaut de formules magiques et de potions pour soigner le fils du roi. Aucun n'y arriva. Et le roi s'enferma de plus en plus dans une sorte de mutisme blasé. Mais notre histoire commence environ 2 ans après ceci. Nasreddin Hoxha, à ce moment-là, traînait à la bordure de ce petit royaume, affamé. Et en cherchant un petit encas dans une poubelle, le voilà qui tombe sur un morceau d'os de poulet enveloppé dans un papier étrange. Et dépliant le papier et le lisant, 2 mots lui sautent aux yeux. Pièce d'or. Vous pensez, Nasreddin a retourné toute la poubelle et a fini par récupérer tous les morceaux du parchemin. C'était une de ces fameuses affiches qui promettait 2 bourses de pièces d'or à qui soignerait le prince. 2 bourses de pièces d'or. Voilà qui ferait bien mon affaire, ça me permettrait de manger à ma faim quelque temps, se dit Nasreddin. Et puis, je suppose que c'est extrêmement facile. Allez, j'y vais. Et Nasreddin, tranquillement, à son propre rythme, monta sur son âne et se lança dans les 3 semaines de voyage qui lui permettraient d'arriver à la capitale du royaume. Et effectivement, 3 semaines plus tard, le voilà qui toque à la porte du palais. Un garde à l'air blasé et fatigué lui ouvre. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour mon cher monsieur, j'ai entendu dire qu'il y avait une récompense de 2 bourses de pièces d'or, je crois, pour quiconque arriverait à soigner le prince, et me voilà. Le garde avait reçu des consignes très strictes. Le roi, fatigué d'avoir vu tant de charlatans, avait retiré l'offre. Aussi, c'est sans remords qu'il claqua la porte au nez de Nasreddin. Très bien, dit Nasreddin. Il faut vous dire que Nasreddin avait hérité de son âne une volonté têtue plus forte que celle de n'importe qui. Aussi, c'est sans sourciller qu'il s'installa devant la porte du palais, sans manger, pendant plusieurs jours. Au bout de 4 jours environ, le garde commença à avoir des doutes. D'abord parce que, un vieil homme qui passe 4 jours sans manger, sans sourciller, disposait sans doute de connaissances étranges. Et ensuite parce que, pour tout avouer, si le vieil homme mourait, on risquait de l'accuser lui, le chef de la garde. Alors il envoya chercher le roi et lui transmit la nouvelle. Et le roi, intrigué, accepta de faire rentrer Nasreddin et de voir ce qu'il valait. On le fit rentrer, et à sa demande, on l'amena devant la salle où était le prince. Et par un petit Judas, on lui fit regarder. Le prince était effectivement accroupi, tout nu, sous une table picorant du grain et faisant des bruits comme Nasreddin réfléchit une minute et dit « Laissez-moi rentrer ». On lui ouvrit la porte, on la referma derrière lui et Nasreddin s'approcha de la table où se trouvait le prince. Puis, tranquillement, Nasreddin se déshabilla entièrement, s'accroupit, passa sous la table et se mit à picorer du grain aux côtés du prince en faisant Le roi ordonna qu'on scelle la porte. La folie était devenue contagieuse. Alors, sur ses ordres, on la barricada. Une journée s'écoula. Au bout d'une journée, le prince s'adressa à Nasreddin.
T'es une poule, ça fait plaisir de te voir.
Nasreddin hocha la tête et dit « Oui, effectivement, oui, une poule, tout à fait. Je mange du grain comme toi, je suis une poule. » Le lendemain, après avoir mangé assez de grain pour rassasier son estomac, Nasreddin se mit debout. Le prince prit un air scandalisé.
« Qu'est-ce que tu fous? T'es une poule. Les poules, ça se met pas debout. »
Nasreddin lui dit « Oui, bon, certes, mais figure-toi que moi j'ai mal au dos à force d'être penché comme ça, puis mes genoux ils commencent à craquer. Non, mais bien sûr que je suis une poule, t'as bien vu, mais enfin, je sais pas, laisse-moi me mettre debout, ça change rien, ça fait pas moins une poule. »
T'es pas con,
dit le prince, et de se redresser. Le lendemain, Nasreddin mit des vêtements. Alors le prince lui dit
Qu'est-ce que tu fous? T'es une poule, t'as pas besoin de vêtements.
Nasreddin lui répondit Oui, je suis une poule, certes, mais j'ai froid, je suis vieux, j'ai des rhumatismes. Non, je suis quand même une poule. Mais là, ouais, excuse-moi, je mets des vêtements, je me les pèle. Mais je suis quand même une poule.
T'es pas con.
Et le prince mit des vêtements. Le troisième jour, Nasreddin toqua à la porte, qu'on déverrouilla pour l'occasion, et demanda à un serviteur étonné de lui amener un bon repas à base de viande. Le prince fut scandalisé.
Qu'est-ce que tu fous? T'es une poule, tu bouffes pas de viande, tu bouffes du grain.
Nasreddin lui répondit « Oui, bon, certes, je bouffe du grain, ça reste mon élément principal, mais la semoule, c'est du grain. Et en plus, c'est pas bon pour l'estomac, quoi. Et puis, c'est bon, la nourriture préparée. On peut être des poules et manger des trucs bons. Tiens, regarde.
T'es pas con,
lui dit le prince. Et de s'attabler avec Nasreddin. Le quatrième jour, alors qu'il s'attablait à nouveau, Nasreddin s'adressa au prince et commença à lui parler de philosophie, de rhétorique, de religion et même de politique. Le prince fut étonné.
Qu'est-ce que tu fous? T'es une poule, on s'en fout de la politique.
Nasreddin lui répondit, écoute, poule ou pas poule, il n'y a pas de loi contre les poules ici, donc si ton père meurt, ce sera toi le roi. Et quand tu seras roi, il faudra connaître tout ça, mais que tu sois une poule ou pas d'ailleurs. Hein. Pense à tous ces pauvres gens dehors qui sont humains. Hein. Ils n'ont pas de chance, ils ne sont pas des poules. Mais c'est pas une raison pour pas les aider. Allez, pose-toi et discute un peu.
T'es pas con,
lui dit le prince. Et de deviser avec lui de poésie et de religion. C'est alors que le roi entra dans la salle. Il avait été prévenu par les serviteurs que quelque chose d'étrange s'était passé. Et effectivement, en entrant dans la salle, il vit Nasreddin et son fils, assis à table, habillés, mangeant des boulettes de viande et discutant politique. Il tomba dans les bras de Nasreddin. Et le pressa d'accepter immédiatement les deux bourses de pièces d'or, qui furent remis effectivement à Nasreddin, avant qu'on le vire du palais, parce que, on était reconnaissant, mais un vagabond dans le palais, tout de même, faut pas exagérer. Comme rassuré, le roi mourut 3 mois plus tard dans son sommeil, avec un sourire sur le visage, et son fils prit immédiatement sa place. Et il s'avéra un excellent roi, aussi bon que son père, aussi juste, aussi très gentil, sauf envers les voleurs de poules. Et la rumeur, qui est bien souvent mensongère, disait simplement que, une fois l'an, le jour anniversaire de ce jour-ci, il faisait sortir tout le monde de la salle du trône, se mettait sous la table, faisait verser du grain par terre, se déshabillait, et pour bien se rappeler qu'il était une poule et pas un homme, caquetait gaiement en mangeant du grain. L'analyse stylistique de ce conte-ci sera malheureusement assez courte, j'en ai bien peur. Pour la simple et bonne raison qu'une bonne partie des ressorts qu'on y trouve, on les a déjà trouvés dans les contes précédents. On retrouve une fois de plus la répétition, ainsi que la gradation, dans les actions de Nasreddin Hoxha, même si elle sert cette fois un but conscient dans l'histoire, et pas un simple but stylistique. Nasreddin fait accepter le changement au prince, de la même manière qu'il le fait accepter à nous, par petites étapes progressives. Nasreddin, comme tous les sages, sait que la brutalité n'amène à rien. Le ressort comique principal du conte est bien entendu le prince lui-même, et plus particulièrement la phrase
« T'es une poule, bah !»
qui, récurrente, occupe à la fois un rôle d'humour absurde et ridicule, et de comique de répétition, qui est un comique auquel les contes se prêtent particulièrement de par leur structure même. Vous remarquerez que le personnage de Nasreddin ne nous est pas décrit. Il ne s'agit pas d'un choix de ma part lié au fait que je vous l'ai déjà décrit, mais bien d'un procédé. En ne vous présentant pas Nasreddin, en agissant comme si vous deviez forcément le connaître, j'implique dans votre esprit le fait que Nasreddin soit déjà célèbre, déjà connu par tout le monde, ce qui est particulièrement utile si je prévois d'enchaîner plusieurs facéties qui le mettent en scène. En parlant de facéties, vous remarquerez que ce conte en a toutes les caractéristiques. La ruse, l'humour, le but semi-altruiste, puisqu'il fait tout ça pour soigner le prince, semi-égoïste, puisqu'il fait aussi cela pour la récompense. Et le personnage débrouillard et surtout facétieux, qui porte la culture. Et le personnage débrouillard et surtout facétieux, représentant d'une culture. D'un point de vue symbolique, et du point de vue de la morale de l'histoire, puisque, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup à parler de ça, je dirais que, si le but principal de ce conte n'est clairement pas éducatif, on y retrouve quand même plusieurs messages métaphoriques importants. Le prince, en se cachant sous la table et en se prenant pour une poule, cherche, dans un certain sens, à échapper à la vie réelle et aux responsabilités qui l'accompagnent, en se réfugiant dans son univers personnel où il n'est pas fils de roi. Au fil du conte, il finit cependant, grâce à Nasreddin, par accepter de plus en plus de réalité, jusqu'au moment où celui-ci lui explique qu'il sera prince un jour et qu'il doit commencer à travailler tout de suite s'il veut être un bon roi. Le prince, originellement une figure animale, suit en quelque sorte un voyage initiatique très rapide, guidé par la figure du sage en la personne de Nasreddin, et transcende sa condition animale vers un état supérieur, celui d'être humain, avec les responsabilités, les devoirs et les droits que cela implique. Enfin, il est important de noter que le prince, même après être devenu roi, continuera une fois l'an à agir comme une poule, afin d'être sûr de ne pas être devenu totalement humain. Quelle leçon en tirer ? Eh bien, à mon avis, cette leçon importante est trop souvent ignorée. Pour être responsable, il faut se permettre d'être insouciant de temps en temps. Ou, pour le dire autrement, le secret pour être un adulte heureux, c'est parfois d'être un enfant. Voilà, c'est la fin de la partie principale de mon émission. Je vais simplement préciser 2-3 choses et, puisqu'il me reste du temps, je vais finir sur une petite facétie. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, puisque vous m'écoutez, que vous me permettez de parler de ma passion. J'aimerais vous préciser que si jamais vous souhaitez parler de contes ou m'offrir des contes que je pourrais ne pas connaître, eh bien, j'en serais ravi. Vous pouvez me contacter à Grimage, comme le nom de l'émission, c'est-à-dire avec 2 M et 1 S, @campusgrenobletoutenattaché.org. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous laisse sur une dernière facétie. Dans le petit village de Lafare, en Ardèche, vit ou vivait un curé assez particulier qu'on appelle en Ardèche le curé de la Fare, pour des raisons évidentes. Ce curé avait comme réputation d'être un être assez malin, très rusé et surtout très intelligent. Mais je ne suis pas là pour vous raconter une occasion où monsieur le curé a été particulièrement fin, mais plutôt une occasion où il s'est fait avoir. Voyez-vous, monsieur le curé un jour invita chez lui, à manger, un vieil évêque, très malin lui aussi, avec lequel il était plutôt ami. Il lui fit tout d'abord visiter sa maison. « Voilà, dit-il, voilà ma chambre. » Une petite paillasse s'étendait là, avec un crucifix au-dessus du lit, et un petit tabouret avec la Bible et une bougie. Et voilà tout. Oh, « Monsieur le curé, dit l'évêque avec une petite étincelle dans le regard, j'admire votre humilité. Mais continuons la visite. Voilà, dit le curé, la chambre de ma bonne. » S'étendait cette fois un grand lit avec un matelas épais, doux et mou, et des tentures luxueuses. « Ma foi, dit l'évêque avec un petit sourire, monsieur le curé, je vous voilà très, très gentil avec votre bonne de lui offrir un tel lit. Oh, vous pensez, dit monsieur le curé. » La visite continua. Le curé lui fit visiter sa cave à charcuterie, mythologique, tant elle était bien garnie, ainsi que la cuisine. En passant dans la cuisine, quelque chose attira le regard de l'évêque, une superbe louche en argent sculptée. Monsieur le curé, dit l'évêque, je me permets, je fais la collection de tels objets et j'aimerais savoir si vous pouviez me la vendre. Malheureusement, lui répondit le curé de la Fare, cette louche est un héritage de famille et je ne saurais m'en débarrasser. Ce sur quoi l'évêque n'insista pas. Le repas se déroula fort correctement. L'évêque et le curé rirent beaucoup, burent et mangèrent beaucoup aussi. Et le lendemain matin, l'évêque rentra chez lui. Deux jours plus tard, Marie, la bonne, vint voir le curé. « Monsieur le curé, dit-elle, j'ai un problème. La louche en argent, sculptée, a disparu. Et je ne voudrais pas accuser un homme d'église, mais je remarque que je ne la retrouve plus depuis le jour où l'évêque est venu. » Le curé chercha partout avec elle. Effectivement, la louche était introuvable. Alors il envoya à son ami l'évêque une lettre extrêmement polie, dans laquelle il lui demandait des nouvelles, lui racontait un peu sa propre vie, lui demandait comment se portaient ses ouailles. Et à la fin de la lettre, en tout petit, après la signature, était inscrit « Post-scriptum ». Je ne dis pas que vous avez volé la louche. Je ne dis pas que vous n'avez pas volé la louche. Je dis juste que depuis que vous êtes parti, la louche n'est plus là. Ah, il s'est cru malin, le curé de la Fare. Il a attendu un peu, et deux semaines plus tard, il a reçu une lettre de l'évêque. Il était dans l'église à ce moment-là, il l'ouvrit, la lut. On vit ses yeux sauter immédiatement à la fin de la page, et puis il devint tout blanc, puis tout bleu, puis tout vert, et s'effondra victime d'une apoplexie. On l'emmena à l'hôpital où il fut bien soigné, mais un conteur qui passait par là ne put s'empêcher de ramasser la lettre tombée par terre et de l'emporter ailleurs pour la lire. C'était une lettre très polie, dans le même style que celle du curé à l'évêque, dans laquelle l'évêque lui racontait sa vie, etc. Et tout en bas était marqué « Je ne dis pas que vous couchez avec la bonne. Je ne dis pas que vous ne couchez pas avec la bonne. Je dis que si vous couchiez dans votre lit, vous auriez retrouvé la louche. C'est là que je l'ai planquée. » Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8. C'était Grimage. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.